Des tatouages dans un musée national jusqu'en octobre 2015. Les tatoueurs, les tatoués et les autres ont rendez-vous au musée du Quai Branly pour une exposition consacrée à cet art en mouvement. Sujet à la fois anthropologique et artistique, c'est l'occasion dans notre tête au carré d'explorer à la fois le phénomène social du tatouage mais aussi sa place dans l'histoire de l'art. Pourquoi marque-t-on sa peau ? Anne de la revue Hey et l'anthropologue Sébastien Galliot seront mes invités pour en parler et répondre à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux. Hier a été présentée la première cigarette électronique au chanvre qui sera commercialisée en janvier en France. Et dans la foulée, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a demandé son interdiction. C'est à la une de la science aujourd'hui pour vous dire ce qu'il faut savoir sur cette e-cigarette de la discorde. Vous pouvez d'ailleurs interpeller dès maintenant nos invités à ce sujet sur Twitter avec le mot-clé « l'attaque ». Violaine Ballet réalise cette nouvelle tête au carré qui a été préparée par Anne-Cécile Perrin, Olivier Monod et Gabriel Bennett.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Anne et Sébastien Galliot, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes commissaire et conseiller scientifique donc de cette exposition Tatoueur tatoué au Quai Branly. En 1884, Anne, à Baltimore, aux États-Unis, une femme tatouée donne naissance à un garçon. Et là, stupéfaction, l'enfant porte sur son épiderme les mêmes tatouages que sa mère, les dessins et couleurs compris. Est-ce un cas unique dans les annales, Anne, du tatouage ?
Ce n'est pas un cas unique, en tout cas, dans ce qui a été écrit dans la presse du 19e siècle. C'est pour ça que ça nous a paru très intéressant de pouvoir compiler ce qui nous paraissait majeur en termes d'articles fantaisistes, mais aussi d'articles sociaux ou artistiques sur le sujet. Vous avez le bébé tatoué, mais vous avez aussi comment vous détatouer.
Avec du miel, par exemple.
Avec du miel ou du lait.
Ouais. Voilà. Il y a de très bonnes recettes que vous allez nous donner, je suis sûr, dans un instant. Sébastien Galliot, on a le sentiment que le tatouage en Occident est devenu un phénomène social qui s'est généralisé. Est-ce que cette ampleur est inédite dans nos sociétés, en tout cas, ou pas ?
En réalité, le tatouage a toujours été un phénomène social en Occident, donc ce n'est pas vraiment nouveau. La nouveauté, c'est que c'est beaucoup plus répandu, il y a beaucoup plus de tatoueurs, il y a beaucoup plus de possibilités offertes par les professionnels. Mais le caractère social du tatouage n'est pas plus fort aujourd'hui que ce qui pouvait l'être il y a 150 ans.
Oui, qui sont les premiers tatoués de l'humanité, Anne, a priori ?
Je vous le demande, Mathieu.
Ça remonte très loin. Hein.
Oui, ça remonte loin. En fait, on est bien incapable de pouvoir situer.
Voilà, en tout cas, cet art et ce sujet d'anthropologie, on en parle avec vous dans quelques instants, avec les messages des auditeurs qui arrivent déjà nombreux sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux. Après la e-cigarette, voici le e-joint qui va débarquer en France, sauf si la ministre de la Santé parvient à l'interdire. C'est aujourd'hui à la une de la science.
C'est toi, François ?
Oui, c'est moi.
Ça va pas ?
J'ai très très froid.
Ah, mais ça va s'arranger.
T'as fermé la porte ?
Oui, pourquoi ?
Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure.
Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison.
Ah bon ?
Regardez si tu veux, hein, parce que le temps est grave, là, il y en a pour un moment.
T'es sûr ?
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Voilà, est-ce qu'une cigarette électronique à base de cannabis pourrait provoquer ce type d'hallucination ? Hier, donc, a été annoncé le lancement de la première e-cigarette dérivée du chanvre. Elle fait donc déjà débat avec la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui a demandé son interdiction pour incitation à la consommation de cannabis. Bonjour, William Lowenstein.
Bonjour.
Vous êtes médecin addictologue, président de SOS Addiction, et Dominique Dupagne nous a rejoint. Bonjour, Dominique.
Bonjour, Mathieu.
Notre docteur à la tête au carré. Alors, j'ai parlé d'e-joint tout à l'heure. D'abord, est-ce que le terme est exact ou pas ?
Non, c'est une e-cigarette au cannabis qui contient pas de cannabis dans le sens où tout le monde l'entend. C'est une e-cigarette sans THC qui est le principal principe actif du cannabis, celui qui modifie l'humeur, la relation aux autres, le sommeil, la pensée. Là, la cigarette électronique ou dite électronique dont on parle va contenir du CBD, c'est-à-dire du cannabignol, qui est quelque chose dans le chanvre. Oui. D'où son côté licite. Voyez vous-même, vous avez employé à la fois e-cannabis, e-chanvre. D'un point de vue licite, illicite, c'est pas du tout la
Absolument.
Même chose.
Absolument, et c'est pour ça que je vous souhaitais vous poser
voilà.
la question.
Et les usagers disent bien... plus que les scientifiques, hein, d'ailleurs, sauf en Californie, que ce CBD n'est pas un médicament ou une substance psychoactive, mais plutôt quelque chose d'anti-stress, voire, comme la plupart des composés cannabinoïdes, mieux relaxant. Donc c'est plus une discussion sur le cannabis thérapeutique qu'on pourrait avoir que ce fantasme totalement approximatif hier, qui a soulevé même l'interdiction française
quasiment dans la seconde, de notre ministre
de la Santé.
Tout de suite, hein,
mais parce que c'est un réflexe pavlovien pour les politiques. Si vraiment ils agissent pas sur le sujet, même si c'est aussi bêtement qu'au siècle dernier, et ça l'est toujours, ils sont taxés de laxisme et de pas faire leur boulot. Je pense qu'on n'a pas fini de traîner cette histoire d'incompétence chronique sur le sujet du cannabis.
Bon, ben c'est bien parce qu'en 1 minute 30, là, vous avez tout résumé finalement sur ce dossier.
Merci de m'avoir invité.
J'ai les réponses à toutes mes questions. C'est effectivement la une la plus courte de l'histoire.
Bah oui, d'habitude, Dominique, c'est moi qui critique la ministre et là, c'est l'expert invité, donc ça change tout. Non, en effet, en France, on interdit avant de réfléchir. Et donc, dans le cas précis, on n'est pas dans le sous-produit du cannabis qui a les propriétés récréatives qu'on recherche. On est dans un produit qui est plutôt de la famille du cannabis thérapeutique, le cannabidiol. Et c'est une façon de rentrer par une porte dérobée dans le combat que mènent beaucoup de gens pour essayer de faire autoriser justement ces dérivés du cannabis qui ne sont pas récréatifs mais qui ont des propriétés thérapeutiques intéressantes. Et là, ça ressemble quand même plus à un coup médiatique qu'à autre chose, mais c'est bien joué parce que là, ils ont mis les pieds dans le plat, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, donc le terme ijoint est vraiment impropre.
Hein, ah oui, là, dans le cas précis, oui. Mais ça viendra, ça viendra.
Une petite réflexion, histoire de mettre tout le monde à l'aise, c'est que le cannabis thérapeutique a été autorisé l'année dernière par Madame Marisol Touraine sous la forme d'un spray buccal qui s'appelle le Sativex.
Qui va arriver
L'autorisation de mise sur le marché a été donnée par notre ministre de la Santé.
Ouais. Et alors, justement, d'abord, il va servir à quoi ce spray buccal exactement?
Eh bien là, il y a des indications extraordinairement précises, pour ne pas dire restreintes, c'est-à-dire pour soigner ou diminuer les douleurs secondaires aux contractures neuromusculaires des affections neurodégénératives, c'est-à-dire essentiellement sclérose en plaques, etc. Prescrit uniquement par les neurologues ou les rééducateurs spécialisés. Sur l'histoire du cannabis thérapeutique, on sent bien, comme pour l'histoire de la e-cigarette, comme pour l'histoire du baclofène, que c'est plus l'État qui maintenant fait les propositions principales. Je dirais même, ce ne sont même plus les scientifiques qui font les propositions les plus populaires.
Dominique Dupagne.
Oui, c'est vraiment ça la révolution. C'est qu'on arrive avec ces produits, comme avec le baclofène d'ailleurs, à un contournement des circuits officiels, des circuits industriels, des circuits universitaires. Et tous ces gens qui ont l'habitude de régenter et de surveiller, tout ça, voient arriver des choses qui naissent de la masse, des gens qui inventent des choses, ils sont complètement débordés. Et là, Mme Touraine a dit qu'elle allait le faire interdire, mais elle va être embêtée, parce qu'on est quand même face à un extrait d'un produit totalement légal, qui est le chanvre, qui n'est pas le chanvre qu'on utilise normalement pour faire la résine de haschich. Et donc, il va falloir trouver un artifice pour introduire, pour interdire un produit qui est dérivé d'un produit légal.
Pour incitation.
On va interdire la bière sans alcool aussi, parce qu'elle incite à boire.
Et le hich en pommie.
Et le champomie, bien sûr. Le hich en pommie qui conduit.
On ne cite pas de marque sur cette antenne, s'il vous plaît.
Non, mais, si vous voulez, on est dans une situation un peu grotesque. C'est un peu triste. Et alors là, moi, je trouve ça très bien que les deux gars soient amusés à secouer le cocotier très, très fort. Parce que d'ailleurs, personnellement, j'ai toujours pas compris comment ils allaient faire pour que l'huile, parce que c'est huileux, aille à l'intérieur des constituants habituels de la cigarette qui sont destinés à dissoudre de la nicotine ou des arômes, techniquement, c'est pas clair.
En tout cas, ils sont très malins. On les sent plutôt sortis d'une école de commerce que
génial.
D'un champ de cannabis, c'est d'ailleurs.
Génial.
Mais ils travaillent sur le sujet médicalement, au moins pour l'un des deux, depuis 10 ans. Et si on a à comparer notre savoir, nos connaissances à d'autres écoles américaines, il suffit d'aller en Californie voir les groupes scientifiques qui travaillent sur ces dizaines de molécules avec une précision qui nous rendrait vraiment ridicule quand on voit le débat d'hier et son approximation.
Le problème, c'est que ces produits ne sont pas brevetables, ce sont des produits naturels, et donc qui dit pas brevetable...
Ça n'intéresse pas l'industrie.
Mais bien sûr, pourquoi dépenser des dizaines de millions d'euros pour un produit qui va être génériqué dès sa commercialisation? C'est vraiment un énorme problème, notre circuit habituel.
William Lowenstein, votre vice-président des SOS Addiction, Laurent Carilla, j'ai lu des propos justement au sujet de la e-cigarette, cannabis, hier, disant qu'attention, ça pouvait justement mettre les jeunes sur la voie du cannabis.
Je prends le train ce soir avec lui pour une conférence que nous faisons ensemble à Anceny et je compte lui en parler.
Donc il va se faire engueuler, en gros, non?
C'est pas ce que j'ai dit, tellement j'adore notre métalloca principal.
Oui, parce qu'il est fan de
métal. Mais là, je pense qu'il a pris une posture un peu mandarinale à l'ancienne et je vais lui en parler parce qu'on est au 21e siècle et il faut vraiment sortir de tous ces vieux discours.
C'est une vraie question. On peut se poser la question. Est-ce qu'un jeune qui démarre avec cette cette cigarette au cannabis n'a pas envie d'aller directement vers le produit.
J'ai peur qu'il soit vraiment déçu d'abord. C'est-à-dire, si vous faites démarrer quelqu'un à la Camomille, c'est rare qu'il passe à la vodka très rapidement.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. C'est exactement ça.
Oui. Alors, on va voir ce qui se passe. Est-ce que les Hollandais, eux, souhaitent sortir, par contre, un vrai joint, hein.
Mais de toute façon, ça parce sortira forcément.
Ça va donner des idées. Hein.
C'est trop tentant.
Si je puis, pourquoi des personnes à qui on a dit qu'il ne faut pas fumer, mais qui fument quand même, c'est toute l'histoire des drogues et des addictions, devraient s'exposer par la voie fumée habituelle, ce qu'on appelle le filtre marocain ou le filtre en carton, à tous les effets cancérogènes et inflammatoires? Pourquoi il n'y a pas de réduction des risques? Il y en a bien pour l'héroïne. Il y en a bien pour le crack avec des pipes spécialisées. Donc pourquoi les fumeurs de cannabis seraient les derniers à devoir payer à type d'inflammation et de cancer le côté illégal? Oui, si j'ose dire, il ne faut pas. Mais si vous faites, ce n'est pas une raison pour en être malade. C'est notre devoir de protéger, y compris ceux qui sont en dehors de la loi.
Allez, pour terminer,
mais il y a
Dominique,
une bonne conscience populaire qui dit, si c'est de la drogue, il faut que ça fasse mal et il faut que ça soit dangereux.
Et on voit que ça marche bien.
Et,
hein,
on dit, c'est pareil, si vous donnez des seringues aux toxicomanes, après ils vont encore plus se droguer.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de nos patients alcooliques en France, hein? Parce que là, si c'est le cas, alors ça se finit vraiment très mal. N'oublions pas que la principale drogue qui tue, c'est le tabac, absolument, puis après l'alcool.
Bon, donc je retiens que cette e-cigarette, c'est de la camomille.
Ben, en tout cas, c'est un coup de pub extraordinaire, premier point. Et deuxièmement, c'est l'occasion ratée d'ouvrir un débat un peu plus précis sur le cannabis thérapeutique et sur les voies d'administration.
Ça va peut-être lancer le débat, justement.
Voilà, sur les voies d'administration, parce que ça soit le spray buccal, que ça soit le spray nasal, la voie d'administration inhalée, si elle est vraiment safe, sera une voie peut-être très élégante et efficace.
Merci à tous les deux, William Lowenstein et Dominique Dupagne, donc pour cette une aujourd'hui autour de la e-cigarette au cannabis. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, santé et cancer du sein, des chercheurs de l'Institut Curie ont mis au jour un biomarqueur épigénétique pour éviter des chimiothérapies inutiles. Avec le développement du dépistage, les tumeurs du sein de petite taille concernent la grande majorité des patientes diagnostiquées. 60% des femmes porteuses de ce type de tumeur se voient administrer une chimiothérapie. Or, on sait que seule la moitié d'entre elles en a réellement besoin. Ce biomarqueur permettrait donc d'éviter des chimiothérapies inutiles. Peut-être une découverte historique pour le robot Curiosity. Après avoir trouvé des traces d'un grand lac la semaine dernière, le robot de la NASA a maintenant détecté des pics répétés d'émanation de méthane dans des quantités 10 fois plus importantes que celles habituellement connues. Cette découverte suggère la présence de sources localisées et actives. Cependant, l'origine de ce méthane, spatial, géologique ou biologique, reste à déterminer avant d'y voir une nouvelle preuve de l'existence de la vie sur Mars. Et puis le méthane, une question scientifique est également importante sur Terre. En raison du réchauffement de l'eau, le piégeage du méthane présent sous forme de glace dans les sédiments du plancher océanique est en train de s'échapper. Les scientifiques observent en effet d'importants suintements gazeux, comme au large de la côte de l'État de Washington. La question est de savoir si ce gaz va rejoindre l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre, ce qui bien sûr aggraverait les effets du changement climatique. Et puis La Croix nous raconte dans son édition d'aujourd'hui le plus grand détournement d'eau de l'histoire de la Chine. On apprend qu'un gigantesque projet hydraulique est entré en activité vendredi. Un réseau de canalisation long de 1400 km doit détourner les eaux du centre du pays vers les régions plutôt arides du nord, où se trouve notamment la ville de Pékin. De nombreux scientifiques ont cependant exprimé des réserves quant aux conséquences et au potentiel de ce bouleversement géographique. Tatoué de la tête au carré, c'est notre dossier dans un instant.
Je ne veux plus ça. Wow! Trop maillant.
Voodoo Game, et vous l'avez compris, pas content sur France Inter.
Ceci est un neurolaser. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celle de la mémoire.
Qui êtes-vous ?
Rien de plus qu'un fragment de votre imagination.
Sur France Inter.
Voilà, tête au carré, tatouée cet après-midi à l'occasion de Tatoueur Tatoué, exposition à voir jusqu'en octobre 2015 au musée du Quai Branly. Anne et Julien, d'ailleurs, devrais-je dire. Hein. C'est Anne et
oui,
Julien. On s'adresse à deux personnes en l'occurrence, mais vous êtes venus représenter les deux. Vous êtes commissaire de l'exposition. Et Sébastien Galliot, vous êtes anthropologue et auteur d'une thèse sur le tatouage samoan. Vous êtes conseiller scientifique justement de cette exposition du Quai Branly. Le tatouage, donc, un phénomène à la fois dans le domaine de l'art, de l'histoire, de l'art, dans l'anthropologie, c'est l'objet de l'émission cet après-midi. Beaucoup de messages arrivent sur franceinter.fr et puis les réseaux également avec le mot-clé « l'attaque ». Anne, pour faire entrer le tatouage dans un musée comme le Quai Branly, est-ce que ça a été difficile comme démarche ou pas ?
Non, ça a été en fait très naturel. Nous, ça faisait très longtemps qu'on avait le désir, le besoin de formuler ce type d'exposition, puisqu'on en connaît tous les enjeux. Mm-hmm. Et on voulait vraiment s'impliquer en fait sur ce terrain-là. Et le musée du Quai Branly, on avait aussi très très envie. Donc on s'est rencontrés et tout naturellement, en fait, on a réécrit le projet qu'on avait déjà écrit pour le Quai Branly et on a mis en place l'exposition.
Ouais, comment ça s'expose alors le tatouage ? C'est une vraie difficulté
scénographique
ou pas ?
De multiples façons. On va dire qu'il existe énormément d'artefacts extrêmement intéressants tout autour de la planète, y compris forcément des artefacts modernes et contemporains, mais bien sûr anthropologiques, ethnologiques. Et le tatouage est multiple dans ses formes, c'est-à-dire que on a choisi de le représenter de façon moderne et contemporaine en demandant à des artistes tatoueurs de formuler des pièces expressément pour l'exposition. Mais nous avons été contraints, avec plaisir, de remonter, on va dire, aux sources pour, étant totalement conscient du fait que l'objet tatouage est un sujet de fantasme, que les gens se racontent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en fait dessus. Ils en rêvent, ils en ont très peur et il y a une curiosité grandissante. Donc c'était important de repartir des bases pour essayer d'expliquer le présent. Ouais. Ça, c'est l'exposition du Quai Branly.
Sauf que, Sébastien Galliot, on assiste à un phénomène depuis quelques années où il semble vraiment que le tatouage soit entré dans la société. Enfin, on donne des chiffres qui sont de l'ordre de 7 millions, je crois, de Français qui sont tatoués aujourd'hui, sans compter ceux qui pensent le faire dans les années qui viennent.
Oui, mais effectivement, en fait, on a un moment de l'histoire du tatouage qui est assez intéressant, puisqu'on se trouve à la fois dans une période où le tatouage devient un objet de consommation de masse, et en même temps, on est dans une période où les tatoueurs sont de plus en plus talentueux et se rapprochent de plus en plus de la figure de l'artiste que de l'artisan qui se contentait de reproduire des motifs déjà réalisés.
Ouais, mais c'est un vrai phénomène d'ampleur quand même ce qui se passe aujourd'hui. Quand on va sur les plages l'été, il suffit de regarder un petit peu les corps pour s'apercevoir que beaucoup de personnes aujourd'hui franchissent le pas.
Oui, effectivement, beaucoup de personnes franchissent le pas. Moi, j'ai tendance à expliquer ça par l'augmentation des capacités artistiques des professionnels. Dire qu'il y a eu des révolutions techniques, les pigments sont de meilleure qualité, les tatoueurs sont meilleurs, les machines permettent de faire des choses qu'elles ne permettaient pas auparavant. Donc, si vous voulez, il y a une diversification de l'offre qui permet aussi à tout un chacun de se retrouver, de trouver son compte.
Anne, c'est comme ça que vous analysez le phénomène aussi ou pas ?
Pas vraiment, en fait. Le tatouage s'est démocratisé à l'aune d'Internet, tout simplement. Et dans le fait qu'il est de plus en plus facile d'obtenir une machine à tatouer. C'est-à-dire qu'au départ, il faut comprendre que ce milieu-là était un milieu de cooptation, que c'était très, très sérieusement fermé. Et que même obtenir une machine à tatouer et avoir un désir très féru de vouloir devenir tatoueur, on pouvait ne pas obtenir une machine à tatouer. Voilà. Et ne pas travailler dans l'ombre au départ d'un maître. Voilà. Aujourd'hui, vous tapez sur Internet, vous avez une machine à tatouer, vous ne savez pas tatouer, vous inventez tatoueur. Et au contraire de Sébastien, moi j'affirme, dans le livre, c'est pour ça que le livre sort juste après l'exposition et le catalogue de l'exposition, que l'époque moderne et contemporaine du tatouage, c'est-à-dire l'époque du 19e siècle et du 20e XXe siècle sont absolument vitales pour cette évolution artistique et qu'il existait autant de tatoueurs extrêmement talentueux au début et courant du XIXe siècle qu'aujourd'hui. Oui. C'est surtout une démocratisation, on va dire, de l'outil. Le fait que l'image, l'iconographie soit véhiculée aussi vite et aussi facilement.
Alors effectivement, il y a ce hors-série de la revue Et Tattoo, dans lequel vous publiez vraiment les sources d'abord qui vous ont permis de raconter cette histoire fascinante vraiment du tatouage, même si on n'est pas a priori dans ce milieu, je ne sais même pas s'il faut appeler ça un milieu. En tout cas, c'est passionnant et c'est un sujet très sérieux d'ailleurs, c'est ce que vous écrivez, cette culture du tatouage moderne. Vous dites même que vous êtes engagé en toute conscience dans cette recherche parce que vous refusez d'être des touristes du tatouage.
Oui, à l'aune de cette démocratisation et parce que nous sommes depuis le début, depuis 25 ans à peu près, on est des observateurs très, très attentifs des marges, dont on fait partie d'ailleurs. Mmh. On connaît extrêmement bien tous les mécanismes qui renforcent les marges et qui les détruisent. Voilà, le tatouage étant pour nous un sujet très affectif, même émotif. Il était tous les enjeux étaient là, voilà, du fait de réussir à installer cette exposition au Quai Branly.
Mais vous considérez qu'il y a 7 millions de touristes du tatouage aujourd'hui justement en France ?
Je parle pour moi. On a vraiment pour principe de tenter au maximum de ne pas juger les gens qui vont passer dans les mains d'un tatoueur. Il y a 10 000 façons de passer dans les mains d'un tatoueur, 10 000 façons de devenir tatoué et tatoueur.
Didier nous envoie ce message. Pour moi, discuter du pourquoi des tatouages s'apparentent à l'art de sodomiser les diptères. Ma femme et moi, nous nous sommes fait tatouer parce que ça nous faisait plaisir, pas pour appartenir à une tribu ou autre. Élucubration de psy fatigué.
Voilà, c'est pour ça qu'on a fait l'exposition au musée du Quai Branly, pour expliquer que comprendre le tatouage, ça n'était pas le comprendre de façon sociologique ou psychologique. Bien sûr, anthropologique, ethnologique, ça c'est vraiment important. Mm-hmm. Par contre, l'idée d'essayer de tenter de regarder le tatouage d'un point de vue artistique fait comprendre ce qu'il donne à voir réellement aujourd'hui. Et donc votre auditeur a vraiment raison.
De l'anthropologie, Sébastien Galliot, il y a également beaucoup de choses à raconter. Alors vous, en tant que justement, que scientifique, vous avez choisi la Polynésie, c'est ça, pour vous intéresser à ce sujet ? Comment vous êtes arrivé sur cette piste ?
C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est la Polynésie qui s'est imposée à moi, dans le sens où c'était une région pour laquelle je savais que certains archipels avaient conservé des techniques traditionnelles.
Comme Samoa, par exemple.
Voilà. En fait, il ne restait plus que les îles Samoa dans ce cas-là. Et il y avait un vide ethnographique sur ce sujet. Donc, C'est le tatouage qui m'a conduit à faire de l'anthropologie. Et c'est la Polynésie qui s'est imposée à moi. En fait.
Justement, on va partir aux îles Marquises, donc là en Polynésie française, où s'est rendu il y a quelque temps Daniel Chievé pour la Tête au Carré. Avant l'arrivée des Occidentaux justement aux Marquises, l'art du tatouage, vous le direz, nous le confirmerez, était particulièrement présent dans cette culture. Un moment disparu, cet art est en train de renaître grâce à de jeunes marquisiens qui remettent au goût du jour justement les motifs des anciens. Daniel a rencontré Brice Haïti Oukena, c'est l'un des jeunes tatoueurs de l'île, et Nikou Iva, et Pierre Autineau, lui qui est archéologue à l'IRD.
Moi j'ai fait deux tiki qui se regardent en face, parce que quand j'étais jeune j'étais renfermé en moi-même, j'étais timide.
Deux tiki, c'est-à-dire deux têtes de profil qui se regardent l'une, voilà. Ça c'est au-dessus du genou.
Voilà. Là j'ai fait les motifs des anciens que j'ai repris.
La pratique du tatouage est très ancienne, mais on ne retrouve pas des fragments de peau tatoués. Par contre, on a retrouvé des peignes à tatouer. En écailles de tortue, en nacre. Donc c'était un peigne à tatouer qui était frappé avec un petit martelet en bois. Et donc on trempait le peigne dans l'encre.
Et maintenant c'est des dermographes. Ça avec son contact maintenant c'est plus précis, plus fin, plus rapide et moins douloureux comparé au peigne.
Et le tatouage c'est quelque chose qui revient aux Marquis, c'est-à-dire c'était une pratique très ancestrale.
Mais lorsqu'il y a eu beaucoup d'Européens qui sont arrivés, la culture déjà a été modifiée avec le contact, donc il y a une perte des repères de la culture. Et il y a eu une interdiction.
Qu'est-ce qui gênait les Occidentaux qui sont venus jusqu'aux Marquises dans les tatouages des Marquisiens ?
Déjà, les Marquisiens étonnaient, hein, parce qu'ils étaient grands, musclés, ils étaient cannibales, ils étaient tatoués, ils pratiquaient la polyandrie en plus. Donc certaines femmes pouvaient avoir plusieurs hommes. Enfin, il y avait des tas de choses qui choquaient. Ça ne rentrait pas dans le schéma classique que se faisaient les Européens du bon sauvage à la Rousseau. En plus, les Marquisiens étaient relativement peu vêtus. Donc, le corps était exposé. et le corps était exposé, mis en valeur par le tatouage. Donc c'était presque une provocation vis-à-vis d'une morale un petit peu pudique, puritaine, missionnaire. Dans la seconde partie du 19e siècle, visiblement, les esprits occidentaux n'étaient pas tellement ouverts. Et le tatouage a été comme ça un petit peu éliminé.
Comment tenez ton poids, quand et moi ?
Voilà, Sébastien Galliot et Anne, donc les îles Marquises, il y a un instant. Alors, entre les îles Marquises et Samoa, on est toujours en Polynésie, mais il y a combien ? 3000 km de différence entre les deux îles. Est-ce que vous avez aussi constaté ce regain d'intérêt pour le tatouage à Samoa ?
À Samoa, il n'y a pas vraiment de regain de tatouage, puisque la pratique initiatique de tatouage a toujours existé. C'est le seul endroit où les missionnaires n'ont pas réussi à l'interdire. Cela dit, le renouveau du tatouage aux Marquises, c'est pas du tout un événement très nouveau. Hein. C'est depuis les débuts des années 80, il y a un vrai regain d'intérêt pour le tatouage en Polynésie française, aussi dans un contexte de débat sur la décolonisation, la réappropriation identitaire, tout ce genre de choses.
Ouais. Le mot tatouage, il a un lien direct justement avec la Polynésie ?
Il est dérivé du mot tatao qui est utilisé à la fois à Tahiti et aux îles Samoa notamment.
Gilles nous envoie ce message, montre-moi tes tatouages, je te dirai qui tu es. Non, pas si facile, j'ai vécu en Polynésie justement et les tatouages maoris sont impressionnants. En arrivant, je trouvais cela pas très beau et sans aucun sens. Et après une année de bonnes explications, il s'agissait partout pour moi d'un livre ouvert sur les étapes de la vie de celui qui les portait. Est-ce qu'il faut l'interpréter comme ça justement ?
Le tatouage marquisien, effectivement, comporte beaucoup, un grand nombre de motifs. Simplement, le sens avait été perdu et ce sont les tatoueurs qui ont recréé des histoires autour de ces motifs au départ parce que les sources étaient écrites en allemand, donc ils n'avaient pas accès à la langue allemande. Donc il y a beaucoup de fantasmes aussi sur les significations des motifs, le côté sacré, c'est pas toujours le cas.
Allez, on en reparle avec vous dans un instant. Anne et Sébastien Galliot, beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr et puis également sur le mot-clé l'attaque, juste après The Black Keys. Tatoué, c'est donc au musée du Quai Branly à Paris. Vous avez jusqu'au 18 octobre 2015 pour y aller, donc ça c'est formidable. Et puis en attendant, vous pouvez découvrir ce livre à offrir pour Noël, par exemple. Et Tatou, chez quel éditeur, Anne d'ailleurs ?
619 en Cama.
Voilà, on peut le trouver aussi sur le site internet, j'imagine, de la revue.
Oui, bien sûr, on le trouve un peu partout.
Hein. Sébastien Galliot, également notre invité, anthropologue et auteur d'une thèse donc, sur le tatouage samoan. Anne, on disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du tatouage. Aujourd'hui, quand même, il a été beaucoup mieux intégré. Hein, on le voit d'ailleurs avec l'ampleur que prend le phénomène. Donc, c'est devenu à la fois regardable et acceptable.
Oui, il faut imaginer que l'iconographie en fait du tatouage est très séductrice et le cinéma autant que le sport, autant que la publicité a donné à voir différents types de tatouages sur des personnages emblématiques ou avec des messages un peu sexy et donc ce fait là a réduit la distance que les gens pouvaient mettre entre l'idée de ne jamais surtout se faire un tatouage parce que ça fait mal, parce que c'est stigmatisant, parce que ça peut faire peur, parce que c'est violent. Mmh. Et puis, on réussit à l'associer à quelque chose de séducteur. Donc, le geste, en fait, est maintenant beaucoup plus facile dans la tête des gens. Même ceux qui n'y ont jamais pensé, aujourd'hui, se rapprochent, en fait, de cette idée-là. Mmh. Ce qui ne veut pas dire qu'ils pensent au tatouage réel proprement dit. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en fait qui pensent pouvoir se faire tatouer, mais qui, une fois qu'ils sont tatoués, peuvent le vivre extrêmement mal.
Vraiment ?
Oui, j'en ai encore rencontré dans mon entourage proche. Se faire un tatouage, et qui plus est, un tatouage assez important, est quelque chose avec lequel il faut savoir vivre.
Ouais. Donc ça se mûrit aussi. Enfin,
le tatouage
se mûrit. On n'arrive pas comme ça dans le tatouage.
Le tatouage se mûrit, on choisit bien son tatoueur. Il faut bien choisir son tatoueur. La relation qui s'installe entre son tatoueur, soi-même, et le motif qu'on va rêver puis se faire est très 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 important. Ouais.
Sébastien Galliot, à Samoa par exemple, donc là vous le disiez, il y a une vraie tradition, une vraie culture, sans interruption d'ailleurs. Les hommes autant que les femmes d'ailleurs sont tatoués là-bas ou pas ?
Quasiment, oui. Ouais. Quasiment. Par contre, on ne choisit pas son tatouage à Samoa. C'est des œuvres standardisées. Tout le monde porte la même chose sur le corps.
Ouais. C'est le même tatouage pour tout le monde.
Même tatouage pour les
hommes. Selon les groupes sociaux ou selon les hommes et les femmes ? C'est vraiment en fonction du sexe.
C'est un rite d'initiation dont les motifs varient uniquement en fonction du sexe, pas du tout en fonction des individus.
Donc c'est un vrai métier traditionnel aussi là-bas ?
C'est un métier d'expert rituel. Traditionnel dans la mesure où les premiers explorateurs ont constaté que ça existait déjà, donc pour supposer que ça date de plusieurs milliers d'années.
Ouais. Le tatoueur, il a quel statut alors justement là-bas ?
Le tatoueur, il a un statut un peu particulier dans le sens où il participe pas nécessairement à la vie politique de son village. Mmh. En même temps, c'est quelqu'un qui investit de croyances et de pouvoirs assez particuliers, notamment le pouvoir de donner la mort, puisque le tatouage entraîner la mort aux îles Samoa.
C'est-à-dire
que c'est une étape qui dure à peu près 3 semaines, qui est très douloureuse, qui recouvre la moitié du corps.
Donc le processus du tatouage
sans interruption
est très long.
Voilà. Donc c'est la cicatrisation qui peut entraîner des complications. Et c'est aussi ce qui fait la valeur rituelle et l'efficacité de l'initiation.
C'est un vrai rite de passage au fond. Hein. Vraiment l'avant et après cérémonie qui dure très longtemps et qui est toujours pratiquée comme ça aujourd'hui.
Toujours pratiqué comme ça, avec des petites modifications au niveau des aiguilles, puisque aujourd'hui on utilise des aiguilles en acier au lieu d'utiliser des ivoires de cochon, mais l'essentiel du rituel perdure, on va dire. Ouais.
Et il y a une cérémonie aussi pour signifier la fin de cette opération très longue.
Il y a une cérémonie pour initier le début de l'opération, une cérémonie pour clôturer et pour réintroduire les nouveaux tatoués dans leurs activités quotidiennes.
Alors, vous étudiez aussi les techniques de tatouage, ça fait partie de vos recherches et de vos travaux scientifiques. J'ai lu, par exemple, qu'on pouvait, en Alaska, utiliser la couture pour tatouer.
Oui, effectivement, c'est une technique qui est très spécifique à l'Alaska en particulier. C'est simplement le fait d'attacher un morceau de boyau au bout d'une aiguille, de tremper ce boyau dans l'encre. Ouais. Et en fait, l'encre se dépose pendant la couture, entre guillemets. Ouais. Mm-hmm.
Viron demande sur franceinter.fr, Anne, est-ce que le marquage des animaux domestiques peut être considéré comme un tatouage ?
Alors encore un point important où il est intéressant de se plonger dans l'histoire du 19e siècle, puisque les animaux tatoués, qui sont comme des faire-valoir ou de tatoueurs, apparaissent. Mm-hmm. Donc on en voit dans les foires, on en voit dans les cirques, on en voit au devant des expositions universelles. Voilà, c'est l'animal tatoué fait partie de la grande légende du tatouage du 19e siècle.
Jacques demande, est-ce que les esclaves ont été tatoués ? Était-ce un moyen pour les propriétaires d'accentuer leur pouvoir sur ces esclaves ? Sébastien, vous voulez répondre ?
Les esclaves, certainement. Et également, dans certains pays, le tatouage était partie intégrante des pratiques punitives et de certaines administrations pénitentiaires. Donc oui, effectivement, c'est une manière de subordonner les individus.
Avec des lettres, certaines lettres. Hein,
des
aussi,
lettres, qui étaient, des qui signes rudimentaires.
Le tatouage a été très, très longtemps utilisé de cette façon-là. Dans l'armée britannique, même chez les proxénètes turcs, pour conserver, on va dire, enfermer les femmes arméniennes qui étaient capturées, chez les Chinois, chez les Japonais.
Pendant l'Holocauste.
Oui, c'est une pratique.
Évidemment.
Oui.
Extrait du film Les Promesses de l'Ombre, David Cronenberg.
On pense qu'il faisait partie de la mafia russe.
Oui, c'était un membre des Voriv Zakonye. L'étoile sur le genou indique qu'il ne s'est jamais mis à genoux devant personne. Dans les prisons russes, toute votre vie est tatouée sur votre corps. Si vous n'avez pas de tatouage, vous n'existez pas.
Voilà, les prisons russes. Alors ça, c'est un des exemples. On peut en donner beaucoup, justement. On a souvent l'impression que l'usage du tatouage était d'abord l'expression d'une rébellion ou l'appartenance à un groupe, une secte ou une mafia. C'est toujours le cas ou pas ?
Il y a en fait deux tatouages frères, si j'ose dire, d'un point de vue du geste et de la motivation. Le tatouage de Goulag russe et le tatouage de Biribi française.
C'est-à-dire ?
Donc, d'un point de vue artistique, en fait, de l'école du tatouage, on a vraiment un trait russe très compacté, qui est très identitaire et qui marque absolument tout le parcours du prisonnier, y compris ses idées politiques, sa religion, etc. Et puis on a Obiribi qui sont une sorte de bagne militaire ouvert par la République française à partir de 1832 en Afrique du Nord principalement. On a toute une catégorie en fait de population française qui va dans ces Biribi se tatouer très intensément, puisque tout le règlement en fait du Biribi les empêche absolument de communiquer.
Ouais.
Ils ne peuvent absolument pas parler. Donc tout passe par le tatouage. Ils sont couverts de la même façon que les prisonniers de Goulag.
Ouais, c'est ça. Donc on voit les prisonniers russes, effectivement. On pense à la mafia japonaise.
Ouais. Hein, la mafia japonaise, on est vraiment très loin de ces considérations-là, puisque le Japon, on va dire, est un territoire roi en termes de tatouage, et a toujours considéré le tatouage comme une sorte de peinture, en tout cas a toujours honoré le geste du dessin, et a, depuis le XVIIIe siècle, considéré le tatouage comme un art.
Voilà, mais il y a une relation très ambiguë quand même au Japon par rapport au tatouage, parce que quand on va dans les bains japonais, mieux vaut éviter d'être tatoué, enfin c'est assez mal vu quand même dans la culture japonaise aujourd'hui.
Il y a toujours, par rapport au tatouage, entre le tatouage et les autorités, il y a toujours une guerre, un combat.
Oui.
Au Japon, le tatouage a été encensé, admiré, rejeté, réfuté, puis interdit, puis pratiqué. Donc c'est comme en Chine, en fait, où il fonctionne par vagues. Et au Japon, il était très mal vu d'être extrêmement tatoué, puisque stigmatisant et appartenant à une famille. Par contre, aujourd'hui, les jeunes générations, depuis au moins 20 ans, ont appris à faire vraiment autrement, tout en étant très, très tatoué.
Oui, Sébastien Galliot, vous parlez des momies, justement, dans le livre « Et tatou ». Donc là, on remonte très, très loin aussi dans cette histoire. Hein.
Oui, effectivement, la momie la plus ancienne qu'on ait pu trouver, c'est une momie, non pas, ce n'est pas le fameux homme des glaces Ötzi, qu'on a trouvé dans le Tyrol, mais c'est une momie...
3003 avant Jésus-Christ, pour Ötzi.
Voilà. Et en fait, il y a des momies plus anciennes, notamment au Pérou, au sud du Pérou, qui datent de 6000 ans avant Jésus-Christ. Et c'était déjà du tatouage, on va dire, ornemental, puisque ça représente une moustache.
Ouais. Qu'est-ce qui reste alors ? Ce tatouage a passé les époques, on a encore des traces.
Le Ötzi, c'est une momie naturelle. La momie Chinchorros du Pérou, c'est une momie volontairement momifiée. Donc il reste des fragments de peu.
Et cette moustache, alors, elle se trouve vraiment au-dessus de la bouche.
Oui, donc on peut voir ça au rayon X, c'est pas nécessairement visible à l'œil nu, mais...
Sybille nous dit ceci, j'ai 42 ans, cette année je me suis fait tatouer une grosse pièce sur chaque bras de l'épaule au coude. Je n'avais jamais été tatouée avant, ce sont des tatouages qui expriment ce que je suis, ce que j'ai dans la peau. C'est une façon de dire ce que je veux rester, un contrat avec moi-même jusqu'à la mort et même au-delà si possible.
Ravi de vous rencontrer.
Voilà ce message.
C'est ce que j'ai envie de lui dire.
Et bien voilà, je vous le donne. Anne. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
Mark Ronson et Bruno Mars, Uptown Funk. Voilà, Anne et Julien, Sébastien Galliot avec nous pour cette exposition Tatoueur Tatoué. Et puis donc ce livre Et Tatou qui vient de paraître il y a un mois et qui raconte justement cette histoire, hein, Anne, du tatouage. Et surtout l'histoire du tatouage moderne aujourd'hui, sur quoi ça repose, comment
oui, ça... c'était important en fait pour nous de revenir dans un livre uniquement dédié sur cette époque moderne et contemporaine, c'est-à-dire début du 19e siècle jusque, on va dire, 1990, puisque c'est là que se concentrent tous les mécanismes qui permettent au tatouage d'évoluer d'un point de vue strictement artistique. Souvent, on pose beaucoup de questions d'un point de vue sociologique ou psychologique. Ce terrain-là est hors d'usage.
C'est pas celui que vous préférez,
non,
en tout cas.
C'est-à-dire que ce sont des questions qui ont été posées de nombreuses fois depuis des années. Or, ce territoire-là, artistique, d'un point de vue de cette époque-là, n'a jamais été encore regardé. Oui. Pourquoi le 19e siècle? D'abord, parce qu'au 19e siècle, il y a une espèce de prolifération, il y a une explosion, on va dire, de la presse populaire, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et on s'aperçoit, simplement en lisant la presse de l'époque, qu'on pioche dans les faits divers, dans les revues qui racontent les spectacles, dans les commentaires politiques, on s'aperçoit que le tatouage est extrêmement présent.
Oui. Donc,
Dans les faits divers, effectivement, il y a plein d'histoires totalement truculentes. Il y a aussi beaucoup de considérations sensationnalistes. On déplore aussi beaucoup de morts, des morts qui n'ont pas existé, puisque après on a quand même vérifié. Mm-hmm. Il y a tout un mystère autour des encres, des couleurs. Les couleurs empoisonnent-elles la peau?
C'est toujours des questions qu'on se pose, d'ailleurs. Hein. Elles sont là dans les courriers des auditeurs.
Et ce sont toujours des questions qu'on se pose. Donc on trouve ça très intéressant d'imaginer aujourd'hui, penser que le tatouage finalement a tout dit, appartient à tout le monde, est une culture de mass média, alors qu'en fait, il a connu la même chose au 19e siècle, il est retourné dans sa grotte, dans sa cave, et aujourd'hui, on se repose les mêmes questions.
C'est ça,
donc
exactement.
Il a su garder tout son mystère.
Ouais. À partir des années 80, il y a un regain d'intérêt?
Il y a évidemment toute une histoire, comme en peinture, de l'école des écoles stylistiques, artistiques, de tatouage. On l'a évoqué tout à à l'heure, il y a l'école russe et l'école française, et puis il y a la grande école anglaise, l'école américaine, et aujourd'hui des schismes, on va dire que c'est un rhizome. Mm-hmm. Hein. Tout ça, on l'explique très, oui, dans le livre.
Ouais. Sébastien Galliot, est-ce que les motifs représentés sur les corps varient beaucoup en fonction des cultures, précisément? Vous disiez qu'il y avait une uniformité chez les Samoa, par exemple.
Oui, les motifs varient extrêmement en fonction des cultures. Non pas parce que ce sont des cultures qui voudraient développer des motifs pour se différencier, parce qu'elles ne sont pas toujours en contact, mais effectivement, si on part de Bornéo ou des Philippines et qu'on fait un petit aperçu jusqu'à l'île de Pâques, on a des dizaines d'iconographies différentes, à vocations différentes, à usages différents.
Oui, on a un exemple à vous proposer, c'était en mars dernier. Une horde de tatoueurs s'est emparée de la Grande Halle de la Villette à Paris pour la 4e édition du Mondial du Tatouage. Témoignage là-bas d'une visiteuse.
Ce tatouage représente ma fille. Parce que quand j'étais enceinte, je l'appelais ma crevette des bois. Une fois que j'ai accouché, je voulais m'inscrire ma fille dans la peau, mais sans faire de portrait ou de nom, quelque chose qui m'est propre. Et donc de l'autre côté, j'ai un crapaud bleu qui est en l'honneur de mon fils. Donc quand j'étais enceinte, je l'appelais mon crapaud et quand il est né, il ne respirait pas, il était bleu. Et du coup, ben, j'ai fait un crapaud bleu, mais qui a des reflets roses parce qu'il a survécu à tout ça. Je pense que c'est un amour éternel, fort, et il me les fallait dans la peau parce que je les ai dans la peau.
Voilà, Anne, j'aimerais avoir un commentaire. Ça doit être très particulier.
Moi, je trouve ça très joli.
Pour le fils d'être représenté en crapaud sur la peau de sa mère, c'est intéressant quand même.
C'est bleu, un crapaud bleu, puisqu'il est tout fait et il est encore vivant, donc tout va bien. Non, je trouve ça très joli. C'est comme se passer la bague au doigt quand on veut se marier. Le tatouage, c'est sa valeur de symbole, mais c'est aussi très. C'est intime, ce sont des très très jolies histoires. Et finalement, ça ne regarde qu'elle. Elle est très sympathique de partager tout ça avec nous.
Il y a des modes de tatouage ou pas?
On peut appeler ça des modes, sinon des vagues. Disons que le tatouage évolue en fonction au 19e et au 20e siècle. Ce dont on s'aperçoit d'un point de vue de l'évolution artistique du tatouage, c'est qu'il y a deux très très grandes façons de faire. Il y a cette espèce d'art du gimmick. C'est-à-dire le fait de réussir à se distinguer en attrapant un motif qui est un motif imposé, je dirais déposé, pour en faire autre chose et pour montrer à qui de droit, c'est-à-dire à qui sait lire ce tatouage-là, qu'il a fait mieux ou qu'il a fait autre. Qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Donc ça, c'est un langage évolutif du tatouage. Et d'un autre côté, il y a, on va dire, des illuminés, des personnages magnifiques, illuminés comme en peinture. Ouais. Et ce sont des gens qui, tout d'un coup, vont faire apparaître des sortes d'ombres, manier une couleur très différemment, proposer une composition totalement surprenante, qui va aussi faire évoluer les écoles.
Il y a eu la mode du dauphin ou des têtes d'indiens en France, par exemple, dans les années 80, Sébastien Galliot, hein.
Oui,
c'est assez répandu.
Effectivement, mais le tatouage a aussi vécu d'une certaine manière sa période orientaliste et primitiviste. On a des tatoueurs qui ont commencé à s'inspirer du tatouage oriental japonais, des tatoueurs qui se sont inspirés du tatouage tribal indonésien. Effectivement, il y a des modes, il y a des courants, c'est vraiment une pratique qui est vraiment dans l'histoire.
Allez, on termine avec les messages des auditeurs. Sarah nous dit ceci. Comme il est dit, un tatouage, c'est un rituel. Personnellement, j'ai trouvé un tatoueur sur Toulouse extraordinaire qui est un artiste. Il a un tel talent qu'avec un premier rendez-vous en novembre pour parler de mon projet, j'ai une date pour début 2017 pour le tatouage. Ce délai, dit Sarah, est un temps de réflexion, mais aussi de maturation et de motivation.
Oui.
C'est ce moment nécessaire, avant de poser le tatouage sur la peau.
De façon pragmatique, tous les très grands tatoueurs ont un agenda très chargé. Ouais. Et quand on cherche un maître tatoueur, de toute façon, on peut attendre très facilement 2 à 3, voire 5 ans.
Parce qu'on va le garder, a priori, pendant très très longtemps. Donc c'est plutôt pas mal d'être en accord avec soi-même. Émilien, l'Ancien Testament interdit le tatouage. Est-ce que ça peut expliquer le point de vue des colons de l'époque?
Les colons de quelle époque? La question est un peu floue. Oui, c'est dans le Lévitique. C'est une injonction qui est faite de ne pas se marquer la peau. Cela dit, on peut très bien trouver au XVIIe siècle des pèlerins qui vont à Jérusalem et qui se font tatouer parce qu'ils ont terminé leur pèlerinage. Donc c'est tout le décalage qu'il peut y avoir entre la théorie et la pratique religieuse. Bon. Ils ne sont pas toujours en accord.
Anne, le lien entre religion et tatouage?
Pas mieux, même chose.
La réponse est donnée par Sébastien Galliot. Amélie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les encres utilisées qui doivent être toxiques? Non,
les encres ne sont pas du tout toxiques. Le SNAT est là pour ça. Ici, en France, on est très bien. On a un syndicat qui est géré par Tintin et qui est là justement pour essayer de faire tomber toutes ces fausses idées et surtout créer un dialogue avec le ministère de la Santé et, afin d'assurer la tranquillité des tatoueurs. Ouais. Évidemment, aujourd'hui, la pratique est extrêmement bien surveillée.
Alors justement, Tenzi nous dit quand la profession sera-t-elle enfin reconnue et non collée dans le fourre-tout de l'administration avec les voyants, les magnétiseurs et j'en passe? Donc c'est plutôt bien encadré, au contraire, aujourd'hui ?
Oui, non, c'est on a et un point de vue artistique et on a le SNAT quand même, qui est un peu le gendarme du truc, donc tout va bien.
Mohamed demande si on peut refuser de réaliser des tatouages en raison des risques sanitaires qu'ils comportent. Bah oui, a priori, en dépit de pratiques extrêmes comme le tatouage du blanc des yeux. Ça existe, ça, Sébastien Galliot ?
Oui, ça existe, j'ai vu ça récemment, pour tout vous dire. Effectivement, pratique extrêmement dangereuse. Ne pas pratiquer à la maison,
en amateur. C'est pas très pratique, oui. Ça doit faire très mal en plus, non?
J'en ai aucune idée, mais j'imagine que c'est pas très agréable.
Étienne nous dit ceci, l'intervention de l'auditeur qui dit qu'il est tatoué parce que ça lui plaît, en dit long sur ce qu'est devenu cette pratique en Occident, un effet de la montée du narcissisme, du culte du corps et de la jeunesse, du consumérisme vide de sens, la désacralisation du corps comme appartenant à une communauté plus grande que soi. Oh là!
Alors c'est une remarque extrêmement intéressante et c'est le dernier chapitre en fait de notre livre. Donc on fait le pont entre les considérations, les valeurs, l'état d'esprit que travaille la communauté du tatouage en fait, qu'exprime la communauté du tatouage et cette valeur de corps et le statut. Le statut de l'artiste, en fait, le statut du tatoueur, ce que ça peut poser comme problème de considérer finalement un tatoueur comme un artiste. Donc je lui conseille vraiment de lire la dernière partie de notre livre.
Emmanuel nous dit ceci, ce sera notre dernier message. À 40 ans, j'ai fait un dos complet avec une gravure de Jacques Caillot. Je trouve totalement idiot et obtus de qualifier le tatouage de sous-culture.
Merci.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup justement à tous les deux d'être venus dans la tête au carré. Tatoueur tatoué, donc au Quai Branly. Et puis ce livre est Tatou qui est disponible. C'est un hors-série de votre revue artistique Hey avec Julien. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans la tête au carré.